D'accord.
Je suis bien contente, au contraire, que ce monsieur l'ait fait, qu'il ait fait ce livre-là sur les mineurs. Parce que ça, on voit que les répercussions qu'ils ont eues, ces catastrophes, il y en a eu tout partout des catastrophes des mines. Mais personne n'en parle. Ça croit qu'on est des rebuts de la société dans le coin. C'est un vrai crime qui s'est passé contre eux. Pourquoi personne n'a été voir ce qui se passait, au lieu de remettre en route les mineurs, descendre, avant de vérifier si l'aération avait été faite. C'est un crime contre l'humanité. Alors, ils sont dans notre cœur et dans notre mémoire et on ne les oubliera jamais.
Le 27 décembre 1974, dans le quartier de Saint-Amé à Liévin, un coup de grisou et de poussière conjuguée dévaste la galerie des Sissillons dans la fosse 3 de la compagnie minière de Lens et enlève la vie de 42 mineurs. C'est de cette catastrophe, la dernière grande catastrophe au crépuscule de l'industrie minière, que s'inspire Sorge Chalandon dans son livre paru cette année, Le jour d'avant. Ce vendredi 15 décembre, à la médiathèque estaminée de Grenay, a eu lieu une rencontre avec l'auteur. Il y avait entre autres des veuves et orphelins de victimes de l'accident, d'anciens mineurs, des associations, une émotion toujours vive, de la colère palpable bien qu'un peu éteinte et un coup à boire à la santé des mineurs. Avant d'entrer dans le vif du roman, parole à Jacques Lacaze du collectif Liévin 1974.
En 1974, j'étais membre d'un groupe politique qui s'appelait le Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste. Juste après la catastrophe, on est arrivé à Liévin, on est venu sur Liévin et on a lancé tout de suite ce qu'on appelait une commission populaire d'enquête. C'est-à-dire qu'on a pris contact avec différentes personnes comme ça qu'on voyait devant la fosse où avait eu la catastrophe. Et on les a invités à une réunion qui s'est passée dans un bistrot qui était à quelques dizaines de mètres de la fosse. Et on les a fait témoigner, on a enregistré ces témoignages. Et puis on les a revus et on a créé donc une sorte d'association populaire pour se battre pour la vérité. C'est-à-dire qu'à l'époque quand même, ce qui s'était passé vraiment, on ne le savait pas. Quand on a posé des questions, etc. On a appris que les Tafanel, qui étaient des dispositifs pour arrêter un coup de grisou, et comme ils n'étaient pas entretenus, tous ces Tafanel étaient pleins de poussière. Ce sont les premiers témoignages qu'on a eus tout de suite. Et non seulement ça n'a pas arrêté le coup de grisou, mais ça l'a accéléré sa propagation et ça a aggravé le nombre de morts. Puis il y a eu des témoignages de mineurs. Des témoignages de mineurs de la fosse 3, de femmes de mineurs aussi qui expliquaient ce qui s'est passé dans les corons. Notre travail a consisté d'une part à enquêter au maximum et d'autre part à mobiliser, à expliquer, à mobiliser, etc. Et tout ça a débouché sur ce qu'on appelait un tribunal populaire.
Alors aujourd'hui, le collectif a pour principal objectif de faire survivre la mémoire de cette catastrophe. Et donc vous avez mis en place un mémorial et il y a une petite bataille qui vous oppose à l'administration officielle.
Le mémorial qui a été fait un an après la catastrophe, qui a été inauguré d'ailleurs par Chirac, dans ce monument, il y avait écrit « Telle ville, Grenay, tant de morts, Liévin, tant de morts, Mazingarbe, tant de morts, etc. » On a été révoltés par ça, quoi. Ça voulait dire qu'un mineur, c'était un pion, quoi. C'est comme à la guerre de 14, mais les morts, c'était des hommes, c'était des pères de famille, c'était etc., etc. Ils disparaissaient complètement. Alors c'est pour ça qu'on a fait un deuxième mémorial, beaucoup plus modeste, qui avait pour titre aux 42 mineurs envoyés à la mort le 27 décembre 1974, et on avait inscrit tous les noms. Alors du coup, les autorités elles ont inscrit au dos du mémorial officiel, elles ont inscrit ces noms un an après, quoi, ça a été assez marrant. On fait quand même une cérémonie tous les ans. Et donc, on peut reprendre cette célébration, non pas sur le thème de la fatalité, et de mineurs héros, et le mineur est présenté comme un héros, comme ceux des guerres, mais... Qu'il était courageux, c'est absolument indiscutable. Bon, mais enfin, en plus, il n'avait pas le choix. Comme tous les gens qui font un boulot difficile, bon, ils le font non pas par passion pour le boulot, mais sûrement plutôt essentiellement pour gagner leur vie, quoi. On continue à célébrer l'anniversaire de la catastrophe tous les ans, et cette année encore, on se prépare à le faire sur un thème où on dénonce, on dit il n'y a pas de fatalité, il y a des responsables, et les responsables, c'est le capitalisme. Si on a fait reprendre, les mineurs ont repris le travail le 27 décembre, ça veut dire deux jours après Noël. Bon, on leur a même pas laissé fêter Noël correctement. Si on leur fait reprendre le travail comme ça, c'est que il fallait que le charbon monte à ce moment-là.
Question à Sorge Chalandon, écrivain, journaliste, auteur du livre Le jour d'avant. Vous avez dit dans cette conférence que la catastrophe du Liévin avait été votre première colère d'homme. Moi, ce que je me demande, c'est quel sens on peut donner à la colère, et aussi, est-ce que ce livre, de revenir tant d'années après, est-ce que vous concevez ça comme une vengeance ?
Pas du tout. En fait, la colère a été ce que j'ai ressenti il y a 43 ans à la catastrophe de Liévin, mais la colère n'est pas le moteur de ce livre. Le moteur de ce livre, c'est plutôt la fraternité, la dignité, d'autres choses. La colère existe, parce que sans colère, je pense que je n'aurais pas écrit ce livre. Sans colère, je ne serais pas arrivé jusqu'à 65 ans avec l'idée que ce qui s'est passé était profondément injuste, et ça marque une vie d'homme. En même temps, ce livre n'est pas une vengeance du tout. Ce livre est pour moi une façon de partager une histoire avec des gens qui n'en ont pas du tout, qui ne savaient même pas que cette histoire existait. Donc moi, ce que j'aime, et pourquoi j'ai écrit ce livre aussi, c'était pour que des gens qui ne savaient pas qui étaient les mineurs, ce qui s'est passé à Liévin, qui n'ont jamais entendu parler du 27 décembre et des 42, que ces gens-là, brusquement, à l'occasion d'un roman, ça aurait pu être une chanson, ça aurait pu être une pièce de théâtre, ça aurait pu être un film, mais qu'à cette occasion-là, brusquement, ils se retrouvent en face de quelque chose qu'ils ont soit oublié, soit occulté. Donc je ne me venge en rien de personne, mais je dis aux gens, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, et je vais vous raconter d'où vient en partie l'homme que je suis.
La mine, elle est présentée un peu comme un monstre. Et il y a une dissociation entre la mine et les mineurs que je trouve assez importante, et qui tend à montrer qu'il n'y a pas vraiment de fatalité entre l'union morbide, entre un peuple et une terre noire et assassine. Et donc que les catastrophes minières sont davantage le fait d'une réalité socio-historique plutôt que d'un simple coup de grisou.
Le grisou seul n'est pas l'assassin. C'est-à-dire que nous savons que le grisou avait un complice. Le complice, c'était les charbonnages, qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour dégrisouter, notamment ce jour-là dans le quartier des Sicillons. Mais après, si la question est-ce que la mine est un monstre ? Oui, c'est un monstre, mais en même temps, c'est un monstre qui dévore les hommes et qui les nourrit. Donc c'est une complexité folle. C'est-à-dire que moi ce qui me touche depuis que je travaille sur les mineurs et sur la mine, c'est la dureté du travail et la fierté qu'ils en retirent. Donc il y a un côté haine-amour qui est assez bouleversant, qui va de l'un à l'autre, qui est indicible, qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que lorsque le mineur est au fond, il peste, c'est dur, il sue, il est en colère, il a envie de tout laisser tomber. Et quand l'armée noire sort des grilles de la mine, il y a une fierté d'être ensemble, une fierté de faire ce métier-là, une fierté d'en parler aux autres. Je parle au passé, évidemment. Et donc, ce qui est très particulier, c'est la certitude que chaque fois qu'on descend, on descend dans le corps, dans le ventre et dans le cœur de la bête, et en même temps, on la nourrit. Et en même temps, elle se nourrit de nous. Donc, il y a une sorte de jeu mortel entre la terre à qui il faut faire rendre gorge et la terre qui fait rendre gorge aux hommes aussi. Ce qui me bouleverse, c'est qu'à chaque fois, la mine procure la même chose à tous ceux qui en parlent et tous ceux qui l'ont vécu et tous ceux qui en ont vécu, justement. C'est une sorte de monstre qu'il faut vaincre. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Les mineurs n'aiment pas la mine lorsqu'ils sont au fond. Et quand ils en parlent, ils ont de la tendresse pour elle. Alors, ce que c'est de la tendresse pour la mine elle-même, c'est de la tendresse pour le travail qu'elle réclame, c'est de la tendresse pour... C'est comme si la mine, c'est comme un loup, c'est comme une louve. Elle a faim des hommes. Elle a faim des hommes, elle les dévore. Et en même temps, eux s'attachent toujours à lui prendre le lait de la louve, comme Romulus et Rémus. Sauf que là, on se trouve en face de mineurs, on se trouve en face du charbon. Tu me donnes, je te prends, et je vais être peut-être puni pour ça un jour ou l'autre.
Dans votre livre, il y a une bataille mémorielle qui doit être menée, une bataille qui est à la fois contre le silence et l'oubli, et une bataille contre aussi une instrumentalisation de la figure du mineur qui aurait une vocation de martyr, figure sacrificielle. Et vous critiquez ça aussi à un moment donné quand vous parlez de médaille, cette simple rondelle de ferraille. Et vous dites juste après, c'est le mépris des vivants. À l'heure des commémorations annuelles autour de cette catastrophe, qu'est-ce qu'il faut penser de cette bataille ?
Alors, pour moi, la commémoration annuelle qui se tient aujourd'hui, qui s'est tenue l'année dernière, qui se tiendra l'année prochaine, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est le moyen de dire aux jeunes, de dire aux plus âgés, il s'est passé ça ce jour-là. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est la médaille. Ce que je ne supporte pas, c'est le peu de choses qui ont suivi la catastrophe. C'est-à-dire que le président de la République qui ne se déplace pas, c'est-à-dire quelques médailles beaucoup plus tard pour les survivants, c'est comme une sorte de solde de tout compte de gens qui sont responsables de ces faits-là. Là, ce n'est pas les gens responsables de ces faits-là qui commémorent. C'est les familles, c'est les parents, c'est les amis. Les responsables de ces faits-là ne commémorent pas. Et ceux qui vont être là le 27, ce ne sont pas ceux qui disent « Oh, gloire à toi, mineur, qui est mort pour la France ». C'est ceux qui disent « Nous, on est là pour que vous vous souveniez que ces gens-là sont morts pour la mine ». Donc, ce n'est pas pareil. D'un côté, c'est une dégueulasserie de médailles en chocolat. Et l'autre, c'est juste des familles qui se rassemblent pour rappeler que ces gens-là ont vécu, ont aimé, étaient vivants et que rien n'aurait dû les enlever à l'affection des leurs.
Mourir pour le profit de la Compagnie Nationale des Houillères, c'est ça que tu veux, Jojo ? Crever comme ton oncle à 21 ans, les lunettes coulées sur le visage et les doigts soudés par la chaleur ? Suer dans les entrailles de la terre pour engraisser les planqués du carreau, passer tes jours à percer la nuit, c'est ça ton rêve, mon fils? Et si tu tombes à la fosse, tu auras gagné quoi? Qui te rendra hommage? Deux écharpes tricolores venues d'une autre ville, un sous-ministre arrivé de Paris, un discours honteux sur le mauvais sort, trois fleurs payées par le syndicat et une garde d'honneur de copains qui n'oseront même pas regarder votre pauvre mère en face? Tu sais quoi, disait mon père, tu n'iras pas au charbon, tu iras au chagrin. Même si tu ne meurs pas, même si tu survis à la poussière, aux galeries mal étayées, à la berline qui déraille, à la violence du marteau-piqueur, à la passerelle glacée quand tu reviens au jour, même si tu prends ta retraite sur tes deux jambes, tu ramèneras cette saloperie de charbon avec toi. Tu auras laissé du cœur au fond, tu seras silicosé, Joseph. Tes poumons seront bons à jeter dans la cuisinière pour allumer le feu. Tu seras empoisonné, tu seras à moitié sourd, à moitié mort. Comme les cousins de maman, comme les vieux qui se traînent à l'ombre des terris, en crachant la mine qui les dévore. C'était pour terminer un extrait de l'œuvre de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, paru chez Grasset cette année. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle et Radio PFM. Retrouvez toutes nos chroniques et reportages sur microrebelle.fr, web radio du bassin minier.